Chapitre 15. Magie dans la mansarde. En passant devant la maison voisine, Sarah avait aperçu Ramdas qui fermait les volets, mais elle avait eu le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur. « Voilà longtemps que je ne vois plus que de l'extérieur une pièce confortable et bien meublée, » pensa-t-elle. Un bon feu y brillait, auprès duquel le monsieur indien était assis, paraissant aussi seul et malheureux que de coutume. « Pauvre monsieur, » se dit Sarah, « à quoi peut-il bien penser ?» Et voici quelles étaient à ce moment les réflexions du monsieur. En admettant même que Carmichael réussisse à retrouver cette famille de Moscou, il peut se faire que la petite fille ne soit pas celle que je cherche. Et alors, quelles autres démarches pourrais-je bien encore tenter ? En rentrant, Sarah rencontra Miss Minchin, qui était descendue pour gronder la cuisinière. « D'où venez-vous à cette heure-ci ? Vous êtes resté dehors bien longtemps. »«
Il fait si mauvais temps, et il y a tant de boue dans les rues, » répondit Sarah. « J'avançais difficilement à cause de mes souliers troués qui glissaient à chaque pas. »
« N'inventez pas des excuses et des mensonges, » dit Miss Minchin. Lorsque Sarah s'approcha de la cuisinière, celle-ci, rendue furieuse par le semonce qu'elle avait reçu, fut enchantée de déverser sa rage sur la pauvre petite.
« Vous auriez bien dû rester dehors toute la nuit, » lui dit-elle méchamment.
Sarah, pour toute réponse, se contenta de déposer sur la table ce qu'elle avait acheté.
« Voici mes achats. »
La cuisinière les examina en grognant.
« Je voudrais bien quelque chose à manger, » ajouta Sarah timidement.
« L'heure du thé est passée, il n'y en a plus. Est-ce que vous vous imaginiez que j'allais le garder au chaud pour vous ?»
Sarah resta interdite.
« C'est que je n'ai pas déjeuné, »
dit-elle à voix très basse, de peur qu'elle ne tremblât.
« Il y a du pain à l'office, c'est tout ce qu'on vous donnera à cette heure-ci. »
Sarah, docilement, alla chercher du pain. Il était rassis, dur et sec. Ce soir-là, il fut particulièrement pénible pour la pauvre enfant de gravir les nombreuses marches qui conduisaient à sa mansarde. Il lui sembla même qu'elle n'arriverait jamais au bout. Elle fut obligée de s'arrêter plusieurs fois pour reprendre haleine. Quand elle atteignit le dernier palier, elle fut heureuse de voir une lueur filtrer sous sa porte, ce qui signifiait qu'Ermengarde avait trouvé le moyen de monter lui faire une visite. Elle en fut réconfortée, car la seule présence de la bonne et grosse Ermengarde enveloppée dans son châle rouge réchauffait un peu l'atmosphère. Ermengarde était en effet là, quand Sarah ouvrit la porte, assise au beau milieu du lit, les pieds ramenés prudemment sous elle. Elle ne s'était jamais liée intimement avec Melchizedek et sa petite famille. Elle s'amusait à le regarder de loin. Mais cette fois, Melchizedek s'était montré un peu trop entreprenant. Ne s'était-il pas avisé, à un certain moment, de s'asseoir sur son petit arrière-train, tout en la regardant et en reniflant? Ermengarde n'avait pu retenir un cri de frayeur.
« Oh, Sarah !» s'écria-t-elle. « Quelle chance que vous arriviez ! Melchi ne cesse de renifler dans ma direction. J'ai essayé de le faire entrer dans son trou, mais inutilement. Je l'aime bien, vous savez, mais il m'effraie un peu. Croyez-vous qu'il pourrait sauter sur moi ?»«
Vous n'avez rien à craindre, » répondit Sarah.
Ermengarde, à ce moment, remarqua la pâleur de son amie.
« Vous avez l'air bien fatiguée, Sarah. »«
Oui, je le suis en effet, » dit Sarah, se laissant tomber sur le tabouret.
« Oh, voilà Melchizedek, le pauvre chéri, qui vient réclamer son dîner. »
Melchizedek était sorti de son trou, ayant reconnu les pas de Sarah. Il s'avançait d'un air engageant et plein d'espoir. Sarah mit la main dans sa poche, qu'elle retourna, puis secouant la tête.
« Je regrette bien, » dit-elle. « Il ne me reste pas une miette. Rentre chez toi, Melchizedek, et préviens ta femme. » La cuisinière et Miss Minchin étaient si en colère que j'étais tout à fait oublié.
Melchizedek parut comprendre et rentra chez lui, la queue basse, résigné, sinon content.
« Je n'espérais pas vous voir ce soir, Ernie, » dit Sarah. « Miss Amelia est allée passer la nuit chez sa vieille tante, » expliqua Ermengarde. « En son absence, personne ne surveille les dortoirs quand nous sommes couchés. Si je le voulais, je pourrais rester ici toute la nuit. »
Elle montra du doigt sur la table une pile de livres qu'elle avait rapportée et dit d'un air découragé.
« Papa m'a envoyé quelques livres, les voilà. »
Sarah, l'air ravie, courut à la table et, prenant un volume, elle le feuilleta rapidement.
Pour un instant, elle en oublia ses misères. « Oh » s'écria-t-elle, « quelle chance ! L'histoire de la Révolution française par Carlyle. Il y a longtemps que je désirais lire ce livre. »«
Oh, pas moi ! Et papa sera furieux si je ne le lis pas. Il s'attend à ce que je le sache presque par cœur quand j'irai en vacances. Que faire ?»
Sarah s'arrêta de feuilleter le livre.
« Voici ce que je vous propose. Si vous voulez bien me prêter ces volumes, je les lirai et vous raconterai ensuite ce qu'ils contiennent. » Et d'une telle manière que vous vous en souviendrez.
Oh, bonté divine ! S'écria Ermengarde. Est-ce possible ?
J'en suis sûr, répondit Sarah. Les petites se souviennent toujours de ce que je leur apprends.
Sarah, dit Ermengarde, le visage illuminé d'espoir, si vous réussissez vraiment à me mettre tout cela dans la tête, je vous donnerai n'importe quoi.
Tout ce que je vous demande, c'est de me prêter ces livres dont j'ai grande envie.
Prenez-les. Dit Ermengarde. Je voudrais bien aussi en avoir envie, mais c'est tout le contraire. Je ne suis pas intelligente, alors que mon père l'est, et il ne peut l'admettre que je ne le sois pas comme lui.
Sarah feuilletait tous les livres, l'un après l'autre.
Qu'est-ce que vous allez dire à votre père ?
Un léger doute se faisait jour dans son esprit.
Je ne lui dirai rien. Il croira que je les ai lus.
Sarah secoua la tête. Ce serait presque mentir. Et les mensonges, voyez-vous, Ermengarde, ce n'est pas seulement mal, c'est pire. Cela vous dégrade. Il me semble, quant à moi, que je serais capable de commettre un acte répréhensible dans un accès de fureur. Je pourrais tuer Miss Minchin, par exemple, quand elle me maltraite. Mais une action dégradante, j'en serais incapable. Pourquoi ne diriez-vous pas à votre père que je les ai lus ?
« Mais il désire que je les lise, » répondit Ermengarde, un peu découragé par ce nouveau point de vue.
« Ce qu'il veut, c'est que vous en connaissiez le contenu, et si je trouve le moyen de vous le faire retenir, je suis persuadé qu'il sera très satisfait.
Oh, »« Pourvu que j'apprenne quelque chose, il sera content de moi, » dit Ermengarde tristement. « Peu lui importe comment je l'ai appris. »«
Ce n'est pas de votre faute, si, » commença Sarah. Mais elle s'arrêta vite. Elle avait failli dire... « Ce n'est pas votre faute si vous êtes bête. »«
Si quoi ?» demanda Ermengarde. « Si vous avez de la difficulté à apprendre, on peut ou on ne peut pas. On n'est pas responsable. »
Elle avait toujours à cœur de ne pas froisser Ermengarde et de ne pas lui faire sentir trop fortement son infériorité. En regardant cette bonne et ronde figure, il lui vint à l'esprit une de ses pensées toujours au-dessus de son âge.
Ce n'est pas tout d'être bien doué. Être bon a plus d'importance dans nos rapports avec les autres. Si Miss Minchin était très savante, sans cesser d'être méchante, elle n'en serait pas moins un être insupportable et que tout le monde détesterait. Il y a beaucoup de gens intelligents qui ont fait du mal. Ainsi Robespierre...
Elle s'arrêta devant l'attitude ahurie d'Ermengarde.
Ne vous souvenez-vous pas de lui ? Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous avez dû l'oublier.
« Oh, je ne peux pas me souvenir de tout, » confessa Ermengarde.
« Eh bien, attendez une minute, que j'ôte mes vêtements mouillés, et je vous raconterai toute cette histoire de nouveau. »
Sarah suspendit son chapeau et son manteau à un clou, et changea ses souliers mouillés contre de vieilles pantoufles. Puis elle sauta sur le lit, s'enroula dans le couvre-pied, et s'assit, les bras autour des genoux.
« Et maintenant écoutez, » dit-elle.
Elle se plongea alors dans les souvenirs sanglants de la Révolution française. Les yeux d'Ermengarde s'écarquillaient de frayeur, et elle était haletante d'émotion. Mais elle trouvait aussi un certain charme au récit de ces histoires terrifiantes. Il était à présumer qu'elle n'oublierait plus Robespierre, de sitôt, et que sa mémoire ne défaillirait pas en racontant l'épisode relatif à la princesse de Lamballe.
Vous savez qu'on promena sa tête au bout d'une pique et qu'une foule hideuse dansait autour ?
Poursuivait Sarah. Elle avait de beaux cheveux blonds flottants. Quand je pense à elle, je ne me l'imagine jamais vivante, mais je vois toujours cette tête, dominant la populace hurlante. Il fut convenu entre elles que M. St. John serait mis au courant de leur petit plan et que les livres resteraient dans la mansarde.
« Et maintenant bavardons un peu, » dit Sarah. « Comment cela marche-t-il à la leçon de français ?»«
Beaucoup mieux depuis ma dernière visite. » où vous m'avez expliqué les conjugaisons. Miss Minchin n'en revenait pas de me voir si bien réussir mes exercices.
Sarah ne put s'empêcher de rire. Elle ne comprend pas non plus comment Lottie résout si facilement ses problèmes. C'est parce qu'elle ment aussi et que je l'aide. Cette mansarde serait habitable si elle n'était pas si laide, ajouta-t-elle en riant. Ermengarde, à la vérité, n'avait pas idée à quel point la vie pouvait être intolérable dans la mansarde, car elle n'avait pas l'imagination très vive. Les rares fois qu'elle y montait, elle n'en voyait que le côté séduisant, grâce aux histoires et aux inventions de Sarah qui l'embellissaient. Ses visites se paraient du charme de l'aventure, d'autant plus que Sarah, bien qu'elle fût souvent pâle et qu'elle eût beaucoup maigri, avait l'âme trop fière pour jamais se plaindre. Elle n'avouait pas que parfois la faim la tenaillait, comme ce soir-là en particulier. Elle était parvenue à cet âge où les enfants grandissent vite. En outre, ses courses perpétuelles lui donnaient un grand appétit. Il lui eût fallu des repas abondants, réguliers et sains, alors qu'elle n'était nourrie que d'aliments de mauvaise qualité, avalés à la hâte et à n'importe quelle heure, suivant les caprices de la cuisinière. Il lui fallait donc s'habituer à certains tiraillements ressentis par son jeune estomac. Elle s'en consolait en se disant « Les soldats doivent en éprouver de semblables à la suite d'une marche longue et épuisante. » Elle aimait le son de cette phrase « Une marche longue et épuisante » qui lui donnait l'impression d'être un soldat elle-même. À d'autres moments, elle se figurait être une hôtesse recevant des invités dans sa mansarde. « Si j'habitais un château et qu'Ermengarde vint me voir sur une blanche Aquenée, accompagnée d'une escorte de chevaliers caracolant autour d'elle, pennon flottant au vent, je ferai lever le pont-levis, au moment où j'entendrai les clairons sonner et descendrai pour la recevoir. Des festins seraient servis dans la salle des fêtes et je ferai venir des ménestrels pour chanter, jouer et conter de hauts faits. Quand Ermengarde vient dans ma mansarde, à défaut de festin, je dois lui raconter des histoires qui l'amusent, sans l'attrister de tous mes ennuis. Il est bien probable que les pauvres châtelaines en agissaient ainsi avec leurs hôtes, en temps de famine, après le pillage de leurs terres. Et Sarah était une fière et courageuse petite châtelaine. Tout ce qu'elle pouvait donner, elle le donnait généreusement à ses hôtes. Ses rêves, ses visions, tout ce qui constituait sa joie et son réconfort. C'est ainsi que, pendant qu'elle bavardait, Ermengarde était loin de se douter des souffrances que la faim causait à Sarah, jusqu'à se demander même si elle ne l'empêcherait pas de dormir. « Je voudrais bien être aussi svelte que vous, Sarah, » dit Ermengarde à brûle-pourpoint. « Il me semble que vous êtes plus mince qu'autrefois. Vos yeux sont plus grands. Voyez comme les os de vos coudes sont pointus. » Sarah baissa sa manche qui s'était relevée. « J'ai toujours été maigre, » répondit-elle bravement. Et j'ai toujours eu de grands yeux verts. « Je les aime beaucoup, vos yeux, » dit Ermengarde, les regardant avec affection et admiration. « Ils ont un regard si lointain. Ils sont verts, bien qu'ils paraissent généralement noirs. »« Ce sont des yeux de chat, » dit Sarah en riant. « Mais je ne peux pas, comme les chats, voir dans l'obscurité. J'ai bien essayé, mais sans succès. » À ce moment, un visage bronzé apparut à la fenêtre de la mansarde, mais l'une et l'autre lui tournaient le dos. Il disparut aussi vite et aussi silencieusement qu'il était venu. Mais Sarah, qui avait l'ouïe très fine, se retourna et porta les yeux vers le toit, car ce n'était pas là un bruit qui lui fût familier. « Ce n'est pas Melchizedek. »« Quoi ?» dit Ermengarde un peu effrayé. « N'avez-vous rien entendu ?»« Non, » murmura Ermengarde. « Et vous ?»« Il m'a semblé entendre quelque chose. » qui glissait doucement sur le toit. « Ce ne sont pas des voleurs. »« Non, » dit Sarah gaiement, « il n'y a rien à voler ici. » Mais elle s'interrompit tout à coup, car elle venait d'entendre, en bas de l'escalier, les éclats de la voix furieuse de Miss Minchin. Sarah sauta en bas de son lit et souffla la bougie. « Elle gronde Becky, » dit-elle, à demi-voix dans l'obscurité. Elle a fait pleurer. « Est-ce qu'elle va rentrer ici ?» demanda Ermengarde affolée. « Non, elle croira que je suis couché, ne bougez pas. » Miss Minchin ne montait en effet que rarement dans les combles. Sarah croyait se souvenir de ne l'y avoir vue qu'une seule fois, mais elle était si furieuse qu'elle en était déjà presque à moitié chemin poursuivant la pauvre Becky de ses invectives. « Vous êtes une enfant malhonnête, une voleuse. La cuisinière se plaint qu'il y a souvent des choses qui disparaissent. Ce n'est pas moi, madame !» disait Becky en sanglotant. « Vous méritez d'aller en prison, voler la moitié d'un pâté !»
Ce n'est pas moi. J'avais assez faim pour en manger un tout entier, mais je n'y ai pas touché. »
La colère et l'effort qu'elle avait dû faire pour monter l'escalier avaient mis Miss Minchin hors d'haleine. Ce fameux pâté avait été mis en réserve pour son souper particulier. On l'entendit gifler Becky.
« Assez de mensonges ! Allez à l'instant dans votre chambre !»
Ermengarde et Sarah entendirent ensuite la fuite précipitée de Becky se hâtant vers sa chambre, en claquant la porte et se jetant sur son lit.
« J'aurais pu en manger deux !» sanglotait la pauvre Becky dans son oreiller. « Et je n'en ai pas pris une bouchée. C'est la cuisinière qui l'a donnée à son ami, le sergent de ville. »
Sarah serrait ses petites dents, brandissait les poings. Elle avait peine à maîtriser son indignation, mais n'osait bouger avant que Miss Minchin ne fût redescendue et que tout fût rentré dans le silence.
« Quelle méchante créature !» s'écria Sarah indignée.
La cuisinière accuse Becky de ses propres détournements, car ce n'est pas Becky la coupable. Elle a quelquefois si faim qu'elle mange des croûtes qu'on a jetées. Et couvrant son visage de ses mains, elle éclata en sanglots convulsifs. Ermengarde, devant ce fait insolite, fut terrifiée. Sarah qui pleurait.
L'impavide Sarah.
Cela semblait dénoter quelque chose d'extraordinaire, un état d'âme tout à fait inconnu.
Serait-ce possible ?
Une idée effarante germa brusquement dans son esprit lent, mais plein de bonté. Dans l'obscurité, elle se dirigea à tâtons vers la table, trouva les allumettes, alluma la bougie et contempla Sarah avec des yeux angoissés.
« Sarah, » dit-elle d'une voix timide et presque tremblante, « Avez-vous, vous ne vous en êtes jamais plainte. Je ne veux pas être indiscrète, mais avez-vous jamais faim ?»
C'en était trop. Sarah releva son visage.
« Oui, » dit-elle, ne contenant plus son émotion, « j'ai faim. Il me semble qu'en ce moment, je pourrais dévorer n'importe quoi. Et c'est encore plus dur à supporter quand j'entends Becky pleurer, car elle souffre plus encore de la faim que moi. »
Ermengarde était bouleversée.
Et je m'en suis jamais douté. Je vous le cachais soigneusement. Je ne voulais pas vous donner l'impression que j'étais une mendiante, bien que je sache que j'en ai l'air. Oh non, vos vêtements sont un peu singuliers, mais vous ne pourriez jamais ressembler à une mendiante.
Un petit garçon m'a donné un jour une pièce de 10 sous, par charité, dit Sarah. La voici. Et elle monta le ruban attaché à son cou. Il ne me l'aurait pas donné, sa pièce de Noël, si je ne lui avais pas fait pitié. La vue de la petite pièce leur fit du bien à toutes les deux. Elles se mirent à rire au milieu de leurs larmes.
« Quel était ce petit garçon ?» demanda Ermengarde en regardant la petite pièce comme si ce n'était pas une pièce ordinaire.
« Un amour de petit garçon. Il partait pour une fête. C'est un des enfants de la grande famille, celui qui a de bonnes grosses jambes, celui que j'appelle Guy. Je suppose que sa chambre était encombrée de cadeaux de Noël, de boîtes de bonbons et autres bonnes choses, et qu'il pensait que moi, je n'avais rien reçu. »
Ermengarde fit un petit saut en arrière. Au dernier mot de Sarah, elle eut une inspiration soudaine.
« Oh, Sarah, que je suis stupide de n'y avoir pas pensé plus tôt. »
« À quoi ?»«
À quelque chose de merveilleux. » Aujourd'hui même, la plus gentille de mes tantes m'a envoyé un paquet rempli de bonnes choses. Je n'y ai pas touché. J'avais tant mangé d'entremets au déjeuner, et j'étais si ennuyée des livres que m'adressait papa. Il y a, continua-t-elle précipitamment, des petits pâtés, des gâteaux, des tartes aux confitures, des brioches et des oranges, du sirop de groseille, des figues et du chocolat. Je vais descendre tout doucement dans ma chambre, et rapporter tout cela bien vite. Nous le mangerons ensemble tout de suite. »
Sarah a failli tomber à la renverse. Quand on meurt presque de faim, le seul mot de nourriture produit parfois de singulières réactions. Elle empoigna le bras d'Ermengarde.
« Vous croyez vraiment que vous pourrez le faire ?»«
Mais oui, » répondit Ermengarde. Et ouvrant la porte avec précaution, elle passa la tête et écouta.
« Les lumières sont éteintes. Tout le monde est couché. Je puis me risquer. Personne ne m'entendra. »
C'était si délicieux qu'elles se prirent les mains. Les yeux de Sarah s'illuminèrent soudain.
« Hermie, imaginons que c'est une réception et invitons la prisonnière de la cellule d'à côté, je vous en prie. Frappons contre le mur, le geôlier n'entendra pas. On entendait Becky encore pleurer, mais plus doucement. Sarah frappa 4 coups. Ceci signifie « Venez chez moi par le passage secret sous le mur. J'ai quelque chose à vous communiquer. » 5 petits coups rapides lui répondirent. « Elle va venir, » dit Sarah. Et presque aussitôt, la porte de la mansarde s'ouvrit, livrant passage à Becky, les yeux rouges et le bonnet de travers. Elle aperçut Ermengarde et se mit à frotter sa figure avec son tablier. « Ne faites pas attention à moi, » lui recommanda gentiment Ermengarde. « Miss Ermengarde vous a invité, » dit Sarah, « car elle va nous monter une boîte de bonnes choses ici. » Le bonnet de Becky faillit tomber, tant elle mit de vivacité à répondre. « À manger, mademoiselle ? Des bonnes choses à manger ?»« Oui, » répondit Sarah, « et nous allons nous imaginer que c'est une réception. » « Vous mangerez aussi longtemps que vous aurez faim, » ajouta Ermengarde. « J'y vais tout de suite. » Elle était si pressée que, en sortant sur la pointe des pieds, elle laissa tomber par mégarde son châle rouge, et personne ne s'en aperçut. Becky était tout au bonheur de ce qui venait de lui arriver. « Oh, mademoiselle, je sais que c'est vous qui lui avez demandé de m'inviter. J'ai envie de pleurer, rien que d'y penser. » dit-elle en la regardant avec adoration. Mais dans les yeux de Sarah, la lueur d'autrefois s'était mise à briller et à transformer le monde autour d'elle. Ici la mansarde, dehors la nuit glaciale, le souvenir de l'affreuse soirée passée à marcher par les rues boueuses, la petite mendiante au regard de détresse. Et tout à coup, cette joyeuse surprise leur arrivant, comme par un coup de baguette magique. Elle eut un sourire confiant. D'une manière ou d'une autre, il arrive toujours quelque événement avant que les choses ne se gâtent complètement. Nous en avons encore la preuve ce soir. Si je pouvais seulement me souvenir que le pire n'arrive jamais. » Puis secouant Becky affectueusement. « Allons, il ne faut pas pleurer. Dépêchons-nous de mettre le couvert. »« Mettre le couvert ?» dit Becky en regardant autour d'elle. « Et avec quoi ?» Sarah parcourut également des yeux sa mansarde. « Et en effet, avec quoi ?» répondit-elle riant à moitié. À ce moment, elle bondit sur le châle rouge d'Ermengarde qui était resté à terre. « Ah, voilà notre affaire. Je suis sûre que ce sera égal à Ermengarde si nous nous en servons comme de nappe. Il fera si bien. » Elles recouvrirent donc la vieille table du châle. Le rouge est une couleur vive et gaie. La chambre en paraît toute réchauffée. Comme un tapis rouge recouvrant le plancher ferait bon effet aussi, s'écria Sarah. Imaginons qu'il y en a un, qu'il est doux et épais, dit-elle avec un petit rire dont Becky connaissait la signification. Et elle marchait avec précaution, comme si elle foulait aux pieds un vrai tapis. Becky regardait Sarah avec un air ravi et sérieux à la fois. « Que manque-t-il encore ?» Et Sarah resta immobile, les mains sur les yeux. « Il me viendra une idée, si je réfléchis un moment. La puissance magique me l'inspirera. » C'était une de ces idées fixes que les pensées voltigent autour de nous et n'attendent que notre appel pour pénétrer dans notre esprit. Becky avait l'habitude et savait, pour en avoir déjà été la spectatrice admirative, que Sarah ne tarderait pas à montrer un visage illuminé et joyeux. Il en fut ainsi encore cette fois. « Ça y est, j'ai trouvé. Il faut que j'aille fouiller dans la vieille malle que je possédais quand j'étais princesse. » Elle s'agenouilla devant la malle qui avait été placée là, non pour sa commodité personnelle, mais parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. On n'y avait rien laissé que des choses sans valeur, mais Sarah savait qu'elle y trouverait ce qu'elle cherchait, avec l'aide de la puissance magique. Elle se saisit d'un petit paquet d'apparence insignifiant, mais que Sarah avait gardé comme une relique. Il contenait une douzaine de petits mouchoirs blancs. Elle les prit avec joie, les plia et les disposa sur le châle rouge, de manière à faire ressortir leurs bords de dentelle. Voici les assiettes. C'est de la vaisselle d'or. Et voici les serviettes richement brodées par des religieuses d'un couvent en Espagne. « Vraiment, mademoiselle ?» s'extasia Becky, enchantée de ce détail. « Il faut nous le persuader. Avec un peu de volonté, vous y arriverez. »« Oui, mademoiselle, » répondit docilement Becky. Quelques instants plus tard, Sarah eut la surprise de voir Becky les yeux fermés, faisant des contorsions et des grimaces. Les mains rigides, pendant de chaque côté de son corps, elle semblait faire effort pour soulever un poids énorme.
« Qu'est-ce qu'il y a, Becky? Vous êtes malade ?»
Becky rouvrit les yeux sur Sota.
« J'étais en train d'essayer de voir ce que vous voyez, »
répondit-elle d'un ton penaud.
« J'y ai presque réussi, mais c'est bien difficile. »
« Oui, peut-être parce que vous n'y êtes pas habitué, » dit Sarah avec sympathie.
« Cela viendra avec le temps. Je vous décrirai toutes les merveilles que je verrai. »
D'un vieux chapeau, d'été déniché au fond de la malle, elle arracha la guirlande de fleurs.
« Voici la corbeille pour la fête, » dit-elle cérémonieusement. « Elle embaume l'air. Tenez, Becky, prenez ce verre à dents sur la toilette. Et aussi le porte-savon. Ce sera le surtout. »
Becky lui tendit ces deux objets avec précaution.
« Et maintenant, en quoi sont-ils ? » demanda-t-elle. « On jurerait que c'est du simple verre et de la vulgaire faïence. Mais moi, je sais bien qu'ils se sont transformés en une matière beaucoup plus précieuse. »
« Ceci, c'est un flacon de cristal gravé, » dit Sarah en disposant les fleurs de la guirlande autour du verre.
« Et cela, » elle remplit de rose le porte-savon, « c'est de l'albâtre, le plus pur, incrusté de pierres précieuses. »
Elle caressa ces objets tandis qu'un sourire heureux errait sur ses lèvres et la faisait ressembler à une créature de rêve.
« Mon Dieu, que c'est joli !» murmura Becky. « Il nous faudrait encore quelques coupes pour les bonbons. J'y suis. »
Et elle se précipita de nouveau vers la malle. Elle en retira une simple pelote de laine à tricoter, enveloppée de papier de soie rouge et blanc. Ce papier fut bien vite transformé en petit plat. Et ce qui resta du papier fut drapé autour du bougeoir qui devait illuminer la fête. Seule la baguette d'une fée eût pu faire de tout cela autre chose qu'une vieille table couverte d'un châle rouge et de vieilleries innommables. Mais Sarah se recula pour juger de l'effet et parut pleinement satisfaite. Quant à Becky, après avoir admiré, elle demanda d'une voix sérieuse.
« Et ceci ?» Elle montrait la mansarde. « Est-ce toujours la Bastille ?»«
Oh non, » dit Sarah, « c'est une salle de fête. »«
Et qu'est-ce que cela, mademoiselle ?»«
Une salle de fête ?» dit Sarah.
« C'est une immense pièce où on donne des festins. » Le plafond est voûté, et il y a une tribune pour les ménestrels, et une immense cheminée où flambent des chaînes entiers. La salle est illuminée de flambeaux de cire qui scintillent de tous côtés.
« Oh, vrai ! » s'écria Becky, et elle se retourna pour contempler les splendeurs qui l'environnaient avec un émerveillement effaré. À ce moment, la porte s'ouvrit, et Ermengarde entra, succombant presque sous le poids de son panier. Elle recula d'un pas, en poussant un cri joyeux à la vue de ce spectacle inattendu. Laisser dehors le froid et la nuit, et se trouver soudain devant une table dressée comme pour une fête, recouverte d'un tapis rouge, ornée de dentelles blanches et enguirlandée de fleurs.
« Oh, Sarah, vous êtes la petite fille la plus ingénieuse que je connaisse. »«
N'est-ce pas que c'est gentil ?» dit Sarah. « J'ai trouvé tout cela dans ma vieille malle, et grâce à mon imagination, j'en ai fait quelque chose. »
Mais « Mademoiselle, » interrompit Becky, « attendez qu'elle vous raconte ce que ces choses représentent. Elles ne sont pas simplement ce que... »«
Oh, de grâce, mademoiselle Sarah, expliquez-le lui !» Et Sarah, avec l'aide de la puissance magique, réussit à convaincre Ermengarde que ce qu'elle lui décrivait était une réalité. La vaisselle d'or, les voûtes immenses, les flambeaux de cire qui illuminaient les arbres qui pétillaient, et pendant ce temps, les gâteaux, les fruits, les bonbons, le sirop sortaient du paquet d'Ermengarde, le festin prenant une apparence de plus en plus réelle et splendide.
« C'est vrai que c'est une belle fête !» s'écria Ermengarde.
« Une table royale !» renchérit Becky. Ermengarde saisit la balle au bon.
« C'est une idée excellente. Imaginez, Sarah, que vous êtes une princesse et que vous donnez une fête royale.
Mais c'est vous qui recevez. C'est vous qui devez être la princesse. Et nous, vos dames d'honneur.
Oh non, pas moi, répondit Ermengarde. Je suis trop grosse et je ne saurais tenir ce rôle. Il faut que vous soyez la princesse.
Eh bien, puisque vous le désirez.
Tout à coup, Sarah eut une nouvelle idée.
Il y a des tas de papiers et de débris dans la cheminée. Allumons tout cela. Nous aurons une belle flambée et cela nous fera l'effet d'un vrai feu pendant quelques minutes. » Sitôt dit, sitôt fait, et une grande flamme illumina toute la chambre.
« Quand il sera éteint, dit-elle, nous nous figurerons qu'il brûle encore. Maintenant, commençons la fête. »
Elle ouvrit la marche et, de la main, fit un signe gracieux à Ermengarde et à Becky. Elle nageait en plein rêve.
« Avancez, gentille demoiselle, et prenez place à la table du festin. Mon noble père, le roi, qui est parti pour un long voyage, m'a ordonné de festoyer avec vous en son absence. »
Elle tourna légèrement la tête du côté d'un des coins de la chambre.
« Hola, ménestrel, à vos violes et à vos bassons. »
Les princesses, expliqua-t-elle rapidement à Ermengarde et à Becky, engageaient toujours des musiciens pour jouer à leur fête.
Imaginez-vous qu'il y a là-haut, dans le coin, la tribune des ménestrels. Et maintenant, commençons. »
Elles avaient à peine eu le temps de porter la première bouchée à leur bouche, quand toutes les trois se levèrent d'un bond et tournèrent leur visage pâle de frayeur dans la direction de la porte. Écoutant. Quelqu'un montait l'escalier. Il n'y avait pas à s'y tromper. Elles reconnurent le pas impatient de celle qui montait et devinèrent que c'était la fin de tout.
« La patronne !» s'écria Becky épouvantée,
et elle laissa tomber son gâteau par terre.
« Oui, » dit Sarah,
les yeux agrandis de terreur dans sa petite figure blanche.
« Miss Minchin nous a découvertes. »
Miss Minchin ouvrit la porte avec violence. Elle était pâle elle-même, mais c'était de rage. Elle regarda les visages effrayés, puis la table du banquet et les dernières flamèches du papier qui brûlait dans la cheminée.
« J'avais bien soupçonné quelque chose de ce genre, mais je n'aurais jamais eu l'idée d'une pareille audace. Lavinia avait raison. »
Elles apprirent ainsi que Lavinia avait deviné leur secret et les avait trahis. Miss Minchin se dirigea vers Becky et la gifla pour la deuxième fois.
« Petite effrontée, dit-elle, vous quitterez la maison demain matin. »
Sarah resta immobile, mais ses yeux devinrent encore plus grands et son visage plus pâle. Ermengarde éclata en sanglots.
« Oh, ne la renvoyez pas !» supplia-t-elle. « C'est ma tante qui m'a envoyé le panier. Nous avions une petite réception. »«
C'est bien ce que je vois, » dit Miss Minchin, en la foudroyant du regard. « Avec la princesse Sarah à la place d'honneur !» Puis, se tournant avec colère vers Sarah.
« C'est vous qui avez arrangé tout cela, j'en suis sûr. »
Ermengarde seule n'aurait jamais eu idée d'une pareille chose.
« C'est vous qui avez décoré la table, avec toutes ces friperies. »
Et frappant du pied, elle ordonna à Becky,
« Retournez dans votre mansarde !»
Becky obéit en courant, le visage couvert de son tablier, les épaules secouées par des sanglots. Et ce fut de nouveau le tour de Sarah. « Je m'occuperai de vous demain. Vous serez privé de déjeuner, de dîner et de souper. »«
Aujourd'hui, je n'ai pas mangé, Miss Minchin, »
dit Sarah d'une voix faible.
« Alors tant mieux, vous en garderez donc le souvenir. Ne restez pas là immobile, remettez toutes ces choses dans le panier. »
Les livres d'Ermengarde frappèrent alors son attention.
« Et vous, Ermengarde, pourquoi avez-vous apporté dans cette mansarde vos beaux livres neufs ?
Emportez-les et allez au lit. Vous y passerez la journée de demain et j'écrirai à votre papa. Que dirait-il s'il savait où vous êtes ce soir ?» À ce moment, elle sentit le regard de Sarah, un regard grave fixé sur elle, et demanda d'un ton violent.
« À quoi pensez-vous? Pourquoi me regardez-vous ainsi ?»«
Je me demandais, qu'est-ce que vous vous demandiez ?» Il n'y avait pas d'impertinence dans le ton de Sarah. Il n'y avait que du calme et de la tristesse.
« Je me demandais, poursuivit-elle à voix basse, ce que dirait mon papa, s'il savait où je suis ce soir. »
Miss Minchin devint furieuse, comme elle était devenue dans la salle d'études, et ne pouvant dominer sa colère, elle se précipita sur Sarah et la secoua.
« Enfant insolente et intraitable, comment osez-vous ? »
Elle rassembla les livres et les jeta pêle-mêle avec les reliefs du festin dans le panier, lança celui-ci dans les bras d'Ermengarde qu'elle poussa devant elle vers la porte.
« Je vous laisse à vos réflexions, dit-elle. Couchez-vous tout de suite. »
Et elle ferma la porte derrière elle et derrière la pauvre Ermengarde qui chancelait. Le rêve était bien fini. Dans la cheminée, la dernière lueur venait de s'éteindre
et il ne restait plus qu'un peu de cendre noire. La table était de nouveau nue. La vaisselle d'or et les serviettes richement brodées n'étaient plus que de vieux mouchoirs et des morceaux de papier rouge ou blanc. Toutes les fleurs artificielles gisaient à terre. Les ménestrels s'étaient enfuis de la tribune et les violes et les bassons demeuraient silencieux. Émilie était assise contre le mur, le regard fixe. Sarah l'aperçut, la prit de ses mains qui tremblaient. « Il n'y a plus de banquet, Émilie, » dit-elle. « Et il n'y a plus de princesse. Il ne reste plus que les prisonniers de la Bastille. » Elle s'assit et cacha sa figure entre ses mains. Que serait-il arrivé si, à ce moment, elle eût levé ses yeux vers la lucarne? Je n'en sais rien. Peut-être la fin de ce chapitre aurait-elle été toute différente. Elle eût aperçu, pressé contre la vitre, et tourné de son côté, ce même visage qui s'était montré dans l'après-midi. Mais trop absorbée par ses pensées, elle resta assise, sa petite tête brune entre ses bras, dans la position qu'elle affectionnait pour retrouver son équilibre. Enfin, elle se leva et se dirigea lentement vers son lit. « Inutile ce soir d'essayer d'imaginer autre chose avant de m'endormir. Je n'y réussirai pas. Si je m'endors, peut-être un rêve viendra-t-il à mon aide. » Et elle se sentait si fatiguée, peut-être par manque de nourriture, qu'elle eut à peine la force d'atteindre son lit. S'il y avait un bon feu, où danseraient beaucoup de petites flammes, murmura-t-elle, et devant ce feu, un bon fauteuil, ainsi qu'une petite table avec un souper, bien chaud, songeait-elle en tirant la mince couverture sur elle. Si ce lit était bien doux, avec un bon édredon et des oreillers de plumes, et s'il y avait... Mais sa lassitude eut pitié d'elle, car elle ferma les yeux et s'endormit. Elle ne sut pas combien de temps elle avait dormi. Sa fatigue était si grande et son sommeil si lourd et si profond que rien n'aurait pu le troubler, pas même les cris et les cabrioles de Melchizedek et de sa famille, si tant est que toute sa progéniture se fût décidée à sortir de son trou pour jouer et se quereller au milieu de sa chambre. Quand elle se réveilla, et ce fut assez brusquement, elle se rendit pas compte de ce qui l'avait arraché au sommeil. Or, c'était le bruit de la lucarne qui se refermait après avoir livré passage à une souple et blanche silhouette qui, aussitôt sortie, se tint en observation sur le toit, après avoir vu ce qui se passerait dans la mansarde, mais pas trop pour être vue. Au premier moment, elle n'ouvrit pas les yeux. Elle avait encore sommeil, et chose extraordinaire, jamais elle ne s'était sentie aussi douillettement et chaudement couchée, si bien qu'elle se croyait encore le jouet d'un beau rêve. « Quel songe exquis !» murmurait-elle, « la douce chaleur !» Il lui semblait que des couvertures bien chaudes la recouvraient. Elle les sentait positivement, et, en étendant la main, elle touchait même une étoffe soyeuse, qui ressemblait à s'y méprendre à un édredon de satin. Elle retenait son rêve. Et ne bougeait pas afin de le faire durer. Mais à la fin, il ne lui fut plus possible de résister davantage. Elle percevait confusément dans la chambre une clarté, un bruit, le craquement d'un bon petit feu pétillant. Elle ouvrit les yeux et son visage s'épanouit, car ce qu'elle voyait, elle ne l'avait jamais vu précédemment dans la mansarde, et elle savait qu'elle ne le verrait jamais plus. « Je rêve donc encore ?» murmura-t-elle en se mettant sur le coude et en regardant autour d'elle. Il ne pouvait en être autrement, jugez-en. Dans la cheminée, un bon feu flambait. Devant le feu, une bouilloire de cuivre chantait. Sur le plancher s'étalait un beau tapis rouge, épais et chaud. Auprès de l'âtre, un fauteuil confortable garni de coussins, et devant ce fauteuil, une petite table pliante recouverte d'une nappe blanche esservie. Des plats couverts, une tasse, une théière. Au lit, on avait mis des couvertures épaisses et un couvre-pied de satin, sans oublier, au pied du lit, une robe de chambre ouatée, des pantoufles fourrées et quelques livres. La chambre de son rêve était devenue une réalité, tout inondée d'une chaude lumière. Au milieu de la table était posée une superbe lampe allumée, recouverte d'un abat-jour rose. Sarah se redressa et, de saisissement, en perdit presque la respiration. « Mais mon rêve ne s'évanouit pas !» Repoussant enfin les couvertures,
Elle posa ses pieds par terre avec un sourire ravi. Maintenant, debout, au milieu de toutes ces merveilles, elle se tourna de tous côtés, répétant sans trêve.
« je rêve, et mon rêve cependant demeure réel. Tout est ensorcelé, à moins que je ne le sois moi-même. Que m'importe après tout, si je puis croire que tout ce que je vois existe ?»
Le feu brillant l'attira. Elle s'agenouilla et en approcha ses mains, si près que la chaleur la fit se rejeter en arrière.
Un feu qui n'existerait que dans un rêve ne brûlerait pas.
Elle se releva d'un bond, toucha la table, les plats, le tapis. Elle alla au lit et tâta les couvertures. Elle prit dans ses mains la robe de chambre douce et ouatée, la serra contre sa poitrine et y appuya ses joues.
« C'est chaud et moelleux, »
dit-elle très émue. « Il faut bien que ce soit réel. » Elle l'enfila et chaussa les pantoufles.
« Tout cela existe, » s'écria-t-elle. « Je ne rêve pas. »
Enfin, elle prit un des livres, l'ouvrit et lut ces mots écrits sur la page de garde. « À la petite fille de la mansarde, de la part d'un ami. » Ne pouvant se contenir davantage, elle laissa tomber sa tête sur le livre et éclata en sanglots.
« Qui cela peut-il être ? En tout cas, quelqu'un s'intéresse à moi. J'ai un ami. »
S'éclairant de sa bougie, elle se glissa hors de la chambre et entra chez Becky.
« Becky, Becky !» murmura-t-elle debout auprès du lit. « Réveillez-vous !»
Becky, éveillée en sursaut, se mit sur son séant, l'air ahuri. On voyait, encore sur sa figure, des traces de larmes. Elle aperçut à côté d'elle une petite personne en superbe robe de chambre de soie rouge et dont le visage était rayonnant, transfiguré. Elle reconnaissait en elle la princesse Sarah d'autrefois, un flambeau à la main.
« Venez voir, oh Becky, venez !»
Becky, trop effarée pour parler, se leva simplement et la suivit. Quand elles eurent franchi le seuil de la chambre de Sarah, celle-ci ferma la porte doucement et attirant Becky au centre de ses merveilles.
« Tout cela est vrai, » s'écria-t-elle. « J'ai touché tous les objets. Ils sont tous aussi réels que nous-mêmes. La puissance magique a passé par ici et a tout disposé, Becky, pendant que nous dormions. La puissance magique qui ne permet jamais au pire de se produire. »